C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 23 mars, bonne journée, bienvenue au 98.5. Situation en Ukraine, évidemment, quatrième semaine de la guerre. Et on regarde les dépêches ce matin, entre autres, qui font état, par exemple, de nouveaux bombardements qui touchent la capitale et surtout un quartier résidentiel qui serait présentement visé. Et on parle de civils qui deviennent comme encore une fois des cibles et aussi des tirs de missiles qui se font depuis la mer Noire. On va regarder toute la situation, les mouvements militaires avec notre collègue correspondante en Ukraine. Elle est dans l'ouest du pays, Tetiana Ogarkova. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, on peut noter donc ces mouvements militaires de l'armée russe dans l'est de la capitale.
Oui, exactement. Cette nuit, il y avait encore des bombardements du quartier résidentiel. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude ce que c'était. Les gens parlaient même de grades. On ne sait pas encore. Donc, ça prouve que l'attaque russe continue. Il y avait aussi des frappes au sud, du côté de Mykolaïv, qui ont fait aussi deux morts, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Ce matin, Kharkiv reste bombardé, pareil que Mariupol. Mais en même temps, on voit que cette activité de frappe par l'air, elle n'est pas confirmée par l'avancée des troupes russes dans le sol, c'est-à-dire que on reste toujours dans la situation de où l'armée russe n'arrive pas véritablement à avancer et changer, si vous voulez, la donne de cette guerre. Donc, dans cette situation, comme je disais avant, donc on craint bien sûr que l'armée russe et que ils vont procéder par l'escalade, en fait, qui peuvent utiliser d'autres armes ou même attaquer autrement. On attend toujours l'attaque biélorusse. Hier, on a reçu une dépêche comme quoi l'OTAN pensait que Biélorussie pouvait enfin entrer en guerre. Bien sûr, on sait que Biélorussie est en guerre depuis le début parce que c'est par son territoire que le char russe est arrivé en Ukraine, notamment, et qu'il y a des frappes aériennes de provenance de Biélorussie, mais on attendait toujours l'armée biélorusse qui n'y est pas pour l'instant, mais donc il y a des signes qui viennent déjà de l'OTAN, et donc le but de cette participation de Biélorussie, ça pourrait être justement de couper l'Ukraine du supplément d'aide militaire qui venait de l'Occident, c'est-à-dire par l'Ouest, donc en coupant les routes. Donc on est dans l'attente, on observe bien sûr ce qui se passe, et bien sûr ça fait des craintes, voilà, pour la population ukrainienne et bien sûr pour l'armée. Mais la situation reste contrôlée à ce moment.
Bon, il y a évidemment tout le volet diplomatique, le volet politique. Il y a entre autres le président Zelensky dans quelques heures qui va s'adresser à l'Assemblée nationale française. Et on surveille de près le sommet de l'OTAN qui est prévu pour jeudi.
Oui, exactement. Donc, le président Zelensky parle devant le Parlement français aujourd'hui, comme il l'a fait pour Bundestag en Allemagne ou pour le Congrès américain il y a presque une semaine. En fait, on attend avec impatience son message. On pense que l'essentiel de ce message serait de livrer plus d'armes, puisque l'armée ukrainienne a déjà démontré qu'on était capable de contenir, de résister à l'armée russe. Mais pour nettoyer notre territoire de l'occupant, des occupants, il nous faut d'autres armes armes de plus longue durée, distance, en fait, pour être beaucoup plus efficace et pour pouvoir libérer tout simplement le territoire souverain de l'Ukraine. Donc je pense que l'accent sera mis là-dessus, aussi bien que sur la défense aérienne et embargo de pétrole et de tous les produits qui sont très importants pour la Russie, donc qui constituent une grande partie de son économie. Donc les sanctions économiques, on salue bien sûr tout ce qui a été déjà fait, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus et d'une manière assez rapide pour priver tout simplement la Russie de toute possibilité d'avancer, de continuer cette guerre.
Merci beaucoup, Tetiana. Prenez soin de vous, soyez prudente et on se reparle demain. Tetiana Ogarkova, qui se trouve, je vous le rappelle, dans l'ouest de l'Ukraine. Quelques notes à ajouter, parce que quand on fait le tour ce matin des différents sites d'information, une des grandes préoccupations qui revient, c'est cette notion de l'escalade. Dans certains coins de l'Ukraine, on note que la résistance et l'armée ukrainienne, semble-t-il, ont pu, je ne dis pas reprendre le contrôle, mais en tout cas, montrent une combativité qui n'était peut-être pas celle qui était prévue ou anticipée, premièrement. Deuxièmement, Est-ce que Vladimir Poutine va vouloir donner le grand coup et donc bombarder encore plus massivement? Parce que sur le terrain, ce que l'on note, c'est que beaucoup de troupes russes ont de la difficulté à progresser et se heurtent à une résistance, encerclent certaines villes et n'arrivent pas à entrer. Par contre, Mariupol demeure la ville bombardée. C'est une ville qui est détruite. On dit qu'il y a environ 100 000 personnes qui tentent de sortir. Je vous le disais plus tôt ce matin que des autobus ont été, saisis par les Russes. Les chauffeurs ont été pris en otage. Il y a un pont, entre autres, qui, justement, était utilisé comme couloir pour évacuer des civils et permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée, qui a été détruit. Donc, la stratégie russe passe beaucoup par des bombardements massifs. Mais jusqu'où ira Vladimir Poutine? C'est pas mal la question qui est posée, puis on avait tout le débat hier, puis j'en ai parlé, sur l'utilisation de l'arme nucléaire à portée restreinte, mais évidemment qui demeure toujours une arme nucléaire, et le sommet de l'OTAN qui aura lieu jeudi. On va parler du budget qui a été déposé hier à Québec à 6 mois des élections. Alors, la mesure phare qui a été annoncée, c'est ce montant de 500 $ qui sera versé à la plus que majorité des Québécois. Là. Il y a quoi, dit-on, à peu près 400 000, 450 000 contribuables qui n'ont pas accès. Le critère étant d'avoir un revenu annuel de 100 000 $ et moins après les déductions fiscales, donc 100 000 net. Il ne reste pas beaucoup de gens là, qui ont des revenus supérieurs à ça. Et Pierre-Yves, qui va décortiquer le budget tantôt, et puis le ministre des Finances qui sera avec nous, a cette image ce matin que je partage. Il dit, c'est comme si Québec avait décidé de ne pas envoyer de chèque à Carey Price, mais d'envoyer 500$ à sa femme. En voulant dire que, est-ce que, si on n'était pas dans une période d'élection, ce serait le même geste? Et là, c'est tout le débat. Qui on aide? Puis là, je sais que pour des gens, ça ne sera jamais assez, là, mais est-ce qu'on donne plus à moins de gens? Est-ce qu'on donne 500$? T'sais, c'est un chiffre magique, là. Puis, tu sais, je me souviens de la CAQ, 500$, 1000$. Ils prennent souvent des engagements, là, où le chiffre est clair, puis l'interprétation n'est pas là, là. C'est-à-dire que, v'là du fric, puis voici ce qu'on vous promet. Donc, 500$. Et tout ça parce que l'économie roule bien. L'inflation génère des revenus spectaculaires. Plus vous payez cher pour des matériaux de construction, pour l'essence, bien, ça fait cling-cling dans la caisse enregistreuse du gouvernement. Donc, on va remettre à 90 % de la population ce montant-là. Est-ce que ça va alimenter l'inflation? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Il y a toujours les tarifs d'Hydro-Québec qu'on regarde pour l'année prochaine. Donc, mesure qui est la plus importante. L'autre mesure, c'est le réinvestissement en santé. Quand je dis réinvestissement, là, on parle d'1 milliard pour cette année pour reconstruire le système de santé. Et vous le savez, moi, je suis toujours très prudent sur les chiffres. Là, on peut garrocher des milliards dans un budget puis se demander, ça va atterrir de quelle façon? T'sais, rappelez-vous, on annonçait des centaines de millions pour des postes. Les gens ne se présentaient pas, les postes n'étaient pas comblés, le système ne marchait pas mieux. Ce qu'on sait, là, c'est que si on oublie la pandémie, le système de santé a besoin d'être plus que rafraîchi, là. C'est toute la question de l'accès. C'est pas la qualité des soins, c'est d'y avoir accès. Accès à un médecin de famille, accès à un médecin spécialiste dans des délais qui ont de l'allure, accès à la salle d'urgence. Bref, être soigné. Pouvoir entrer dans le système. Et le ministre Christian Dubé doit annoncer les grandes lignes de cette opération vers la fin du mois, donc dans quelques jours. Et tout ça dans un contexte où le Québec manque de lits, manque de personnel, puis fait face à un vieillissement de la population. Vous comprendrez que l'équation n'est pas simple. Donc, on va investir. Puis là, on annonce aussi, pour soutenir le plan environnemental, encore des milliards pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a réduit la subvention pour l'achat d'un véhicule électrique de 1 000 $. On va voir avec le ministre tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Si vous avez déjà commandé votre véhicule, là, ça ne s'applique pas. Là. Je pense que c'est à partir du 1er avril, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est une réduction. Au lieu de 8 000 $, ça va être 7 000. Et c'est un déficit zéro qui est prévu en 2027-2028. Donc, ce sont pas mal les grandes lignes du budget. Les oppositions disent que c'est pas responsable. L'ex-ministre des Finances, Carlos Lightao, dit que, justement, c'est tout à fait contre-productif que de garrocher 500 $ comme ça à tout le monde. Au total, c'est 5 milliards, je vous le disais, pour la santé. Alors, voilà pour l'essentiel du budget. Puis, ce qui est important, c'est pas tellement le lendemain de budget, mais dans les prochaines heures où on va retrouver des fois un certain nombre de petits points qui échappent à la première lecture. Mais en gros, c'est ça. On s'en va en élection. Le fric rentre plus que prévu. Québec baisse pas les impôts, puis peut être certain que lors de la campagne électorale qui va, en fait, qui est déjà commencée, mais qui va s'intensifier, la CAQ va nous annoncer des baisses d'impôts à venir. Et là, est-ce que la productivité va être au rendez-vous? Je sais que, pour juste conclure sur le chapitre, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires concernant le logement. Il y a des montants qui sont prévus, mais les villes, entre autres, trouvent que c'est pas assez. J'entendais la mairesse de Gatineau. C'est pas à la hauteur des attentes de Valérie Plante, là. Tu sais, il y a beaucoup de demandes et le ministre dit, pas tard, bien, vous savez, c'est pas tout le monde qui est content, puis c'est sûr que ça va chialer, puis on n'en met jamais assez. Mais l'accès à la propriété, le logement, ça demeure un des enjeux les plus importants. Quand vous regardez le coût là, qui a explosé, ben, c'est sûr que beaucoup de gens ont non seulement de la difficulté à en trouver, mais sont carrément pas capables. Parlons un peu COVID, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de ça. Une augmentation du nombre de cas dans les hôpitaux. Il semble qu'il y a des régions qui sont un peu plus touchées. Je voyais ce matin dans la presse que la Côte-Nord et la Gaspésie, puis c'est des secteurs qui, vous le savez, ont peut-être eu moins de cas à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça, justement, que là, ça frappe un peu plus durement. Alors, il y a un taux quand même assez élevé d'infection au quotidien. Même chose pour la Côte-Nord. Et de façon générale, les experts disent que même s'il y a une augmentation, ça demeure tolérable. Et que les prochains mois, il y aura... C'est sûr qu'il va y avoir une hausse du nombre de cas. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en connais de plus en plus qui ont testé positif, qui ont eu un certain nombre de symptômes, mais qui, après ça, fonctionnent. Donc, des gens vaccinés adéquatement. Alors, est-ce que le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, l'été, je pense qu'on va avoir quand même un été où il y aura toujours, évidemment, probabilité qu'un certain nombre de gens soient infectés, là, mais que les mesures sanitaires vont être réduites à un minimum. Puis après ça, c'est dans votre cours, c'est dans notre cours. C'est-à-dire que c'est le port du masque qui reste comme mesure. On comprend que dans les hôpitaux, par exemple, puis dans les centres de soins de longue durée, bien là, on va les maintenir, mais après ça, ça devient personnel. Puis des gens qui sont plus confortables de se retrouver dans un lieu public avec un masque vont pouvoir le faire. Ils ne seront pas obligés, mais ça va devenir un choix. Puis ça, c'est correct. Quand on est rendu à une étape comme celle-là de la pandémie, on va regarder les détails avec le Dr Weiss, évidemment, un peu plus tard. Hier, on a confirmé le mariage du rouge et de l'orange, c'est-à-dire du Parti libéral du Canada et du NPD, M. Trudeau et... Jack Meet Singh, qui ont conclu cette entente, qui assure à Trudeau une majorité. Ça peut toujours tomber, là. Mais là, l'histoire enseigne une chose. Le NPD, quand ça se colle trop sur les libéraux, ils finissent par en payer le prix à l'élection générale. Puis les Canadiens se disent, puis c'est un contexte qui peut varier, là, mais pourquoi voter pour le NPD? Ils ont déjà, grâce aux libéraux, obtenu des engagements pour un programme de soins dentaires, programme de médicaments, puis tout ça. Et là, on va soutenir. Alors, l'opposition crie parce qu'il n'y aura pas d'élection, théoriquement, avant les quatre prochaines années. On va regarder ça aussi en détail. Rapidement, on nous dit ce matin, puis ça, je pense que c'est intéressant, quand on parle des fraudeurs, là, tu sais, je vous racontais avec Bénédicte qu'il y a déjà des gens qui sont en train de frauder avec le crédit d'impôt de 500 $ là. Écoutez bien celle-là. C'est Radio-Canada qui nous sort cette nouvelle-là. Une grand-mère condamnée pour une série de vols. Elle a 73 ans. La cour d'appel confirme sa condamnation. Je vois sa photo ce matin. Elle a l'air pas haïssable un peu. détestable. Tu sais, le visage, là. Et elle a commis des vols dans une résidence pour personnes âgées. Elle a elle-même 73 ans. Gisèle Poitras-Dallaire doit se constituer prisonnière pour purger les 18 mois de prison auxquels elle a été condamnée. Savez-vous ce qu'elle faisait, notre Gisèle nationale? Elle a siphonné 1 800 $ à une dizaine de locataires âgés de 71 à 92 ans, alors qu'elle habitait une coopérative de solidarité d'habitation à Lévis. Et même si les montants ne sont pas élevés, le juge a imposé une peine de prison ferme, en notant que les victimes étaient des gens âgés, malades et à faible revenu. Fait qu'elle, elle s'est promenée, puis elle leur a volé de l'argent en utilisant toutes sortes de stratagèmes.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ben, je vais essayer de vous aider à comprendre un peu les mesures qui ont été annoncées hier. Beaucoup de questions qui sont entrées par courriel. On va en parler avec le ministre des Finances, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
J'y vais avec des questions bien, bien techniques, vous allez voir, là, parce que les gens, surtout quand on annonce un 500 $, là, ils veulent savoir concrètement ce que ça veut dire. Première question, là, est-ce que ça s'applique à la déclaration de revenus de cette année, donc pour 2021?
Oui.
Les gens qui ont déjà envoyé leur déclaration de revenus, qu'est-ce qui se passe?
Ils vont recevoir un nouvel avis de cotisation de Revenu Québec.
De cotisation?
Bien, c'est-à-dire qu'il va avoir un ajustement. Alors, déclaration... mais je veux dire, si la déclaration a été déjà traitée ou s'ils l'ont déjà envoyée?
Ça a été envoyé, là.
Si elle a été envoyée, elle va être traitée en fonction de la nouvelle mesure. Si elle a été déjà traitée, ouais. Eh bien, il va avoir un nouvel avis de cotisation.
OK, donc ils vont recevoir un chèque, par exemple, si le montant est réduit.
C'est un chèque, là. On est en 2022, là. C'est un crédit d'impôt remboursable. Il y a un transfert électronique qui se fait dans la majorité des cas.
OK, mais c'est un dépôt dans mon compte, d'abord.
Oui.
Parfait. Pour les gens qui vous doivent des montants, ça va être déduit du montant qui vous est dû, c'est ça?
Ben effectivement. Si vous avez un solde à payer, là, vous avez une réduction du solde à payer.
OK. L'autre question, plus générale cette fois-ci. Est-ce qu'on peut dire que la plupart des mesures fiscales qui concernent les familles québécoises sont basées sur le revenu familial? À peu près à chaque fois que vous annoncez des mesures, on parle toujours du fameux revenu familial. C'est à peu près tout le temps ça.
Bien, en fait, non. Parce que là, pour agir rapidement, là, il fallait y aller par la déclaration individuelle. C'est un choix qu'on a fait, puis j'entends beaucoup de gens qui disent « c'est une mesure électorale ». Mais l'inflation, c'est maintenant. La hausse des prix de l'énergie, c'est maintenant. Alors, on a voulu agir rapidement, puis pour faire ça, il fallait passer par la déclaration de revenu 2021 et le revenu individuel.
OK, mais je reviens quand même à ma question, là. Dans beaucoup de mesures que vous annoncez, puis dans les plus récentes, ça tient compte du revenu familial, pas individuel.
Oui, bien, on a toutes sortes de mesures d'ajustement, là, mais là, c'est la ligne 275 du revenu qui est utilisée pour plusieurs crédits d'impôt. Alors, c'est un choix qu'on fait. On travaille avec la déclaration de revenu 2021. On utilise la ligne 275. C'est le revenu net après déduction pour travailleurs, déduction pour cotisation des fonds de pension. Alors, c'est une ligne qui est standard, là.
OK. Alors, pourquoi donner 500 $ à quelqu'un qui net à 99 000 $ de revenus, alors qu'une personne qui en a 40 ou 30, ou c'est le même montant. Pourquoi c'est le même montant pour les deux?
Mais parce qu'il faut regarder le continuum de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à l'automne, on a annoncé pour les ménages qui faisaient moins que 54 000 $ une compensation de 400 $ Alors, eux, en tout, auront reçu 1 400 $ tandis que là, on fait ce qu'on nous avions dit, c'est-à-dire qu'on arrive avec une mesure d'allocation plus générale, d'application plus générale, parce que l'inflation affecte tout le monde, mais on applique une compensation sur un panier de consommation de base, aliments, logements, transport, énergie.
Oui, mais ça affecte tout le monde, mais pas de la même façon, M. Girard. Là. Moi, je suis moins affecté par l'inflation qu'une mère monoparentale.
Bien, vous, je soupçonne que vous n'êtes pas éligible. Là.
Non, je ne suis pas éligible, mais il y a bien des gens aussi qui n'ont pas les revenus nécessaires. Puis le débat, dans le fond, depuis hier, c'est est-ce que on donne plus à ceux qui en ont moins ou on en donne la même chose à plus de monde possible?
Mais moi, je pense qu'on dit la même chose.
Non.
Parce que dans les faits, on va avoir donné 1 400 $ à ceux qui étaient éligibles au crédit d'impôt solidarité. C'est parce qu'à l'automne, on a donné 400 $ à ceux qui gagnaient moins que 54 000 $. Et là, on a dit que nous aurions une mesure d'application plus générale et on regarde un panier de consommation de 25 000 $. Un panier de consommation mais de base, on compense pour 2%, ça fait 500 $.
OK, mais M. Girard, là, dans 6 mois, les Québécois vont voter. Votre mesure là touche un maximum de gens. Ce que je comprends, il y a à peu près 400 000 contribuables qui n'ont pas droit à ce montant-là. Les autres vont avoir droit. C'est un calcul électoral, pas juste fiscal, là, on va se le dire. Puis vous avez le droit de le faire, mais on peut au moins se l'avouer, là.
Mais est-ce que vous voulez dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est électoral? Est-ce que l'effet sur l'inflation du variant Omicron, c'est électoral? C'est parce que là, on avait une prévision d'inflation qui disait que l'inflation allait revenir à la normale en 2022 avec le resserrement monétaire des banques centrales. En fait,
êtes-vous en train de me dire, vous, que l'élection n'est pas un enjeu?
L'invasion de l'Ukraine, l'inflation est plus élevée, alors on aide les gens immédiatement.
OK, êtes-vous en train de me dire, vous, que ce n'est pas une mesure électorale, êtes-vous en train de me dire que vous avez choisi de toucher à peu près 90 % de la population du Québec, que ce n'est pas électoral? Êtes-vous en train de me dire que pour combattre l'inflation, il n'y a pas moyen d'aider davantage ceux qui ont moins de revenus?
Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une mesure responsable parce que on la traite la plus rapidement possible parce que les gens font face à la hausse du coût de la vie immédiatement. Alors, en passant par la déclaration de revenus 2021, ça nous permet d'agir maintenant.
C'est votre choix, c'est correct, mais vous comprendrez qu'on peut se poser parce que historiquement, les mesures fiscales au Québec ont été faites en fonction des revenus. Plus t'en fais, moins t'en as. Puis moins tu as de revenus, plus le gouvernement t'aide. C'est un peu ça le principe général.
Mais je viens de vous le dire, on a donné 1 400 $ aux familles à faible revenu et ça totalisera 1 000 $ pour les autres.
OK. Pour ce qui est de Hydro-Québec, si la tendance se maintient, que l'inflation garde ce rythme-là, est-ce que ça va être la même mécanique pour compenser les Québécois devant la hausse du compte d'électricité?
Mais ça, je vais laisser ça, le soin au ministre de l'Énergie d'expliquer comment on va procéder. Là, on a une hausse des tarifs de 2,64% le 1er avril de cette année. Et il est possible, étant donné la dynamique d'inflation qu'on voit présentement, que l'indexation serait autour de 5% au 1er avril 2023. Alors, il faut agir pour éviter ce choc tarifaire et mon collègue va présenter la solution qui a été discutée.
Mais là,
parce qu'il fallait regarder toutes les options. Mais à votre question, est-ce que ça va être le même mécanisme? Une réponse précise, non.
OK, mais juste comprendre, là, parce que depuis la semaine passée, j'entends comme réponse le mécanisme. Un, est-ce que le mécanisme...
Moi, j'écoute votre émission, vous parlez beaucoup du mécanisme. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait éviter le choc tarifaire.
OK, mais c'est parce que c'est vous qui parlez du mécanisme à l'Assemblée nationale. Moi, j'essaie de comprendre. Un, est-ce que le mécanisme a été trouvé?
On a regardé plusieurs options. Et oui, on a priorisé une solution qui va être communiquée par mon collègue.
OK, donc, vous savez, aujourd'hui, vous voulez pas me le dire, c'est correct, vous voulez que ce soit votre collègue, la solution existe. Là. Vous savez comment vous allez protéger les Québécois d'un choc tarifaire.
Oui.
Parfait. Savez-vous quand est-ce qu'il va l'annoncer?
Ce choc, en passant, je veux réitérer que ce choc dont vous parlez, il est au 1er avril 2023. Parce que là, le 1er avril de cette année, c'est 2,6%.
OK. Je veux vous amener sur la question du logement.
Oui.
Vous avez annoncé des investissements, là, sauf erreur, sur une période de 6 ans.
Oui.
OK. On parle de combien sur 6 ans?
634 millions.
Pour l'ensemble de l'offre de logements sociaux, appelons ça des logements abordables.
Mais il y a sociaux et abordables, c'est ce dont on parle, parce qu'il y a Accès Logis, qui est un programme de logements sociaux, puis un nouveau programme de logements abordables où on passe notamment par le secteur privé.
OK, mais au total, ce que je veux comprendre, est-ce que ça veut dire, grosso modo, c'est un peu plus de 100 millions par année pour l'ensemble du Québec?
D'argent additionnel, parce qu'il faut regarder, ça fait 4 ans qu'on est au pouvoir. Pour les logements sociaux, on a mis 950 millions. pour s'assurer que les 15 000 unités... Parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a des unités qui avaient été promises, annoncées, les rubans étaient coupés, les annonces étaient faites, puis il n'y avait pas d'argent, ça avançait pas. Alors, on a mis 950 millions pour s'assurer que ces unités-là vont se réaliser. Évidemment, ça prend du temps, là. Lorsqu'on parle de logements sociaux, il y a plusieurs parties prenantes impliquées, là.
Non, je comprends, mais c'est une mécanique qui est intéressante. Vous dites, on les annonce... On coupe le ruban, puis ça se fait pas tout de suite.
Oui, les précédents gouvernements avaient annoncé 15 000 logements sociaux qui n'étaient pas suffisamment financés pour se réaliser.
Est-ce que ça se peut que l'inverse arrive aussi? C'est-à-dire que on a, par exemple, annoncé des investissements pour rénover les écoles, mais que dans le processus qui mène à la rénovation réelle, il y a des délais et des délais et des délais que, bref, vous n'êtes pas capable de dépenser tout l'argent qui est prévu pour ça.
Bon, alors ça, c'est une autre dynamique. Ce qu'on voit, c'est que, étant donné, plus il y a de parties prenantes impliquées, puis les logements sociaux, c'est un bon exemple, là, parce qu'il y a des organismes communautaires, des organismes sans but lucratif, des municipalités, le fédéral, le provincial, des fois, il y a un peu de secteur privé, notamment dans les logements abordables. Alors, plus il y a de parties prenantes, plus c'est compliqué d'avancer. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il y a une rareté de main-d'œuvre. En plus, il y a une hausse de coûts. Alors, oui, il y a des retards dans certains dossiers qui fait que l'argent sort pas aussi rapidement qu'on voudrait. Mais ça, on travaille là-dessus.
Okay.
Parce qu'on s'assure, au gouvernement, on a souvent ces discussions-là. C'est très important de livrer, que ce qui est annoncé se fasse.
OK, mais là, vous devez, j'imagine, penser que ce qui a été annoncé il y a 8 mois, qui n'est pas encore fait, va coûter plus cher.
Mais ça dépend quoi, là.
Non, mais je parle de rénovation, je parle des écoles, là.
Ben, ça n'a certainement pas baissé, là.
Non, mais ça risque d'avoir même augmenté.
Mais là, on fait des ajustements dans le plan québécois d'infrastructure pour ça, là. C'est pas pour rien qu'on le bonifie, là.
OK. Deux dernières questions, parce que le temps file. Auriez-vous pu baisser les impôts cette année?
Non, parce qu'on est toujours en déficit structurel de 2,8 milliards de dollars. Et je pense que ce serait pas responsable.
OK.
On est encore en pandémie. On a des risques devant nous, avec avec ce qui se passe en Europe, là. On a des risques, on a de l'incertitude, et puis c'est important d'avoir un cadre financier qui est prudent puis raisonnable. Et puis ça, tous les partis politiques, parce que là, tantôt vous parliez d'élections, là on va déposer un rapport préélectoral. Bien, le cadre financier sur lequel tous les partis vont pouvoir travailler, parce que c'est dans l'intérêt supérieur du Québec, il va être prudent et responsable. Puis chaque parti pourra annoncer les choix qu'il préfère, mais je pense qu'avec un déficit structurel de 2,8 milliards, c'était pas le moment d'annoncer des baisses d'impôts.
OK. Est-ce que je peux conclure que ce serait imprudent et irresponsable d'annoncer des baisses d'impôts pendant la campagne électorale qui s'en vient?
Il faudra voir comment ça sera passé notre année. C'est-à-dire, est-ce que les risques de ralentissement économique associés à la situation en Europe vont s'être matérialisés ou si on va avoir perdu de la croissance en début d'année, mais qu'on va l'avoir simplement reporté, puis on va l'avoir récupéré. Il faudra voir comment les nouvelles vagues de la pandémie se manifestent, comment notre immunité collective est, comment les frontières se sont ouvertes, comment va notre secteur des exportations. C'est important d'être agile, puis de lire la situation, de prendre les meilleures décisions avec l'information qu'on a au moment où on les prend.
OK, ça veut dire qu'on pourrait promettre, c'est-à-dire des baisses d'impôts en campagne électorale, puis ce serait correct, dans le contexte, ben, selon l'évolution du contexte.
Selon l'évolution du contexte, et puis je pense que il faut être conscient que les Québécois sont taxés. Alors, ils ont un fardeau fiscal élevé. Alors, nous, on en a fait des mesures pour réduire le fardeau fiscal, mais c'est certain qu'on n'a pas terminé le travail.
Monsieur Girard, merci. Bonne journée.
Ben merci, c'est un plaisir. Au revoir.
Éric Girard, le ministre des Finances.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ah ben, tout de suite, on va parler avec Fabrice de Pierrebourg qui se trouve ce matin au sud de la capitale Kiev et qui est dans un secteur qui est rural. Fabrice, on peut dire que la nuit a été plutôt calme, peu d'alarme, malgré le fait qu'il y a des combats qui se déroulent en périphérie.
Oui, c'est ça. Il y a l'offensive, la contre-offensive d'ailleurs ukrainienne se poursuit au nord-ouest de la capitale. C'est surtout là où les Russes semblent en difficulté. Les Ukrainiens disent qu'ils ont repris deux villages du côté d'Irpin. Et dans la ville même, effectivement, à ma grande surprise, il n'y a eu quasiment pas d'alarme ou pas du tout entre 9h et je dirais 10h ce matin. Il faut rappeler que la ville était sous couvre-feu total depuis deux jours. Le couvre-feu donc a fini ce matin à 7h. Et là, on en a profité pour sortir. Mais on a vu les gens qui commençaient à reprendre possession de leur ville. Et ce qu'un policier nous disait, c'est qu'ils auraient arrêté 149 personnes hier suspectées d'être ce qu'ils appellent les fameux saboteurs, donc des Russes qui seraient infiltrés pour commettre des actes ou terroristes, faire des repérages pour des frappes ultimes. Et mais une petite anecdote, Paul, c'est que là, on est arrêté dans un village donc à 2-3 heures de Kiev, et ça fait deux fois qu'on est intercepté soit par des villageois en armes, et cette fois-ci, c'est avec des policiers qui sont derrière nous, parce que ils sont extrêmement vigilants. Les zones qui n'ont pas encore été, je dirais, envahies par les Russes, tout le monde a peur de l'arrivée des Russes. Il y a des fortifications partout. On a vu des cocktails Molotov qui étaient prêts au bord de la route. On s'est arrêté. J'ai voulu m'arrêter juste pour faire une photo d'un paysage, Paul, et ça a pris même pas 3 minutes qu'il y avait 5 habitants qui sont arrivés, dont un avec un fusil de chasse. Heureusement, il y en a qui parlaient anglais, un jeune qui a fait des études à Kiev en anglais. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi on photographie le village, c'est quoi la raison de notre présence. On est reparti, puis là, on vient de se faire intercepter cette fois-ci par des forces de sécurité ukrainiennes. Et ça fait 10 minutes qu'on essaye de s'expliquer, d'expliquer pourquoi on est là. Entre-temps, on est passé dans une ville à 50 kilomètres au sud de Kiev qui a été frappée par des roquettes russes il y a quelques jours. Et les gens se demandent encore pourquoi, parce que c'est vraiment un pâté de, je dirais, une 10-20 maisons au milieu de ce village, qui sont la plupart complètement détruites. Pour l'instant, ils les ont placardées. Ça, c'est survenu le matin. Et heureusement, m'ont-ils dit, la plupart des gens de ce quartier-là étaient déjà partis, craignant l'arrivée des Russes ou les frappes russes, avaient déjà quitté. Donc la plupart des maisons étaient évacuées. Mais une des maisons qui a été touchée, c'est des habitants qui avaient quitté justement le fameux village d'Irpin, qui est au nord-ouest de Kiev, complètement dévasté. Ils venaient d'arriver là, dans cette maison, et leur maison a été frappée à nouveau par les Russes. Imaginez un petit peu le destin de ces gens-là. Maintenant, ils sont partis, puis on a rencontré un couple de personnes âgées qui sont juste à côté. Ils étaient en train de retaper leur maison, et c'est toujours la même histoire. Eux ne veulent pas partir. Ils disent, on est trop vieux pour partir. On est bien là, on veut rester ensemble avec notre chien. On va rebâtir notre maison et on verra. Mais ils nous disent tous, mais pourquoi les Russes font ça, quoi? Ils sont complètement crazy. Ils n'arrêtent pas de nous dire, les Russes, c'est horrible ce qu'ils nous font. Mais on espère que la guerre finira bientôt.
Ce qui veut dire, là, Fabrice, pour qu'on comprenne bien, là, on dirait que les Russes demeurent en périphérie, les forces terrestres demeurent toujours en périphérie de la capitale.
Oui.
Et ce qu'on voit, ce sont des bombardements dans les autres villes. Mariupol, ça continue. Autrement dit, la progression de terrain semble lente.
Elle semble lente. Ben, disons que l'encerclement de Kiev est loin d'être fait encore, parce qu'on arrive à rentrer et à sortir par une deux fois deux voies, avec énormément de contrôle, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de barricades qui sont quasiment prêtes à être mises complètement en travers, certaines plus symboliques que d'autres, mais il y a énormément de présence militaire et toujours ces civils qui s'enrôlent pour défendre leur pays. Mais l'essentiel des combats, c'est vraiment nord-ouest, nord-est. Et ce matin, quand on s'est réveillé, il y avait vraiment un voile de fumée noire sur une grande partie de Kiev, et ça, c'est le résultat des bombardements pendant la nuit. Mais les Russes, grosso modo, sont à, selon les endroits, entre 10 et 25 kilomètres du centre, vraiment du centre de Kiev. C'est-à-dire qu'ils sont quand même à portée d'artillerie. Ils peuvent commettre beaucoup de dommages en ville avec leur artillerie. Donc, ce que le renseignement dit, c'est qu'ils ont l'air, pour l'instant, d'être arrêtés, mais se retranchent. Ils font des fortifications. Ils veulent essayer de tenir leur position à défaut de pouvoir avancer dans la ville de Kiev pour le moment. Mais Paul, dans Kiev, là, c'est, il n'y a pas une ruche, comme je disais hier, là, où il n'y a pas une fortification, où il n'y a pas des gens en armes, où il n'y a pas des blindés, où il n'y a pas des blocs de béton. Des fois, c'est tous les 50 mètres. C'est-à-dire que les gens qui sont restés là, la moitié de la population environ a fui, environ 1,5 million. Mais là, ce sont beaucoup des hommes qui restent, des combattants, des militaires, des miliciens qui sont là et qui attendent les Russes. Quoi.
Parle-moi un peu de ces gens qui vous interceptent, les citoyens, puis après les policiers. Bon, ils vous posent des questions. Quelle est l'attitude, curiosité ou agressivité ou un mélange des deux?
Beaucoup de suspicions au départ. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous photographiez? C'est toujours les gens qui leur disent, il y a un gars qui sort avec son appareil photo, parce que je suis un reporter ici pour l'actualité, donc je suis obligé de faire des photos. Et très vite, ils téléphonent. Et les gens arrivent tout de suite, parce qu'il n'y a pas un village où il n'y a pas un barrage à l'entrée et à la sortie. Donc ceux qui sont venus nous intercepter, ils ont quitté le barrage, puis sont arrivés avec des armes pour voir. Et là, il faut s'expliquer. Moi, je suis avec un collègue, un fixeur, évidemment, qui parle ukrainien, mais il regarde nos passeports, toujours. Il regarde notre accréditation. Ils prennent tout en photo. Ils nous prennent en photo. Ils prennent nos papiers d'identité en photo. Ils transmettent ça à je sais pas qui. Parce que des fois, ce sont des gens qui s'organisent dans leur village. Hein. Donc, il y a un chef autoproclamé de la milice. Puis, il y a des endroits où ils nous disent on a reçu des ordres comme quoi pour surveiller les journalistes. Ça, ce matin, on nous a dit ça. Parce que pour certaines personnes, on est des espions ou on peut photographier des choses qui, après, peuvent servir aux Russes. Pour voir si leurs frappes ont réussi ou si leurs frappes ont échoué. Donc, ils sont extrêmement méfiants, quoi.
Merci, Fabrice. Toujours le conseil d'usage. Sois prudent et on se reparle demain matin. Fabrice de Pierrebourg, qui est présentement donc au sud de la capitale, dans une zone un peu plus rurale.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va parler avec Dr. Weiss maintenant pour faire le point un peu sur l'évolution de la COVID. Hier, on a noté au Québec une augmentation quand même du nombre d'hospitalisations. La plupart des gens disent c'était prévu. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Dans d'autres pays, on voit aussi ce qu'on appelle cette fameuse sixième vague. Par contre, il y a des mesures sanitaires qui tombent. On peut voir avec le port du masque qui ne sera plus obligatoire dans à peu près un mois. Donc, avec le Dr Weiss, regardons un peu où on en est ce matin. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, parlons de la hausse des hospitalisations. Il y a des gens qui ont dit, c'est pas plus grave que ça. Comment vous l'interprétez, vous?
Oui, je vous dirais, c'est pas plus grave que ça. On reste à un nombre qui est très acceptable, premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'hospitalisations, les gens n'ont pas forcément la COVID comme diagnostic principal. Il y a à peu près 40 à 50% des gens qu'on admet chez qui on trouve la COVID de façon un peu accidentelle. Donc, on l'a déjà mentionné, les femmes qui viennent accoucher, des patients en psychiatrie, des gens qui ont des urgences chirurgicales, et même des patients plus âgés, très à risque, qui ont des maladies sévères, chez qui la COVID va, comme si vous voulez, débalancer un petit peu leur état précaire, parce qu'ils ont des conditions cardiaques ou pulmonaires, mais la principale cause d'hospitalisation n'est pas vraiment la COVID. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on compte encore les hospitalisations à la COVID dans leur ensemble, mais la réalité, le nombre de patients qui ont la COVID sévère, relativement jeune, comme diagnostic principal, qu'on voit aux soins intensifs intubés ou qui vont recevoir des traitements aux soins intensifs, comme on voyait au cours de la première ou de la deuxième vague, ces patients-là, on en voit très, très peu comparé à avant. Donc, c'est, le bénéfice de la vaccination.
Bon, l'autre question qui revient beaucoup, c'est quand on regarde depuis le début de cette pandémie ce qui se passe en Europe, finit par se traduire par une réalité pour nous aussi au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qui se passe actuellement en Europe pour les prochains mois au Québec?
Bon, alors, ce qui se passe actuellement en Europe, c'est la chose suivante. C'est que, premièrement, le variant BA2 est en train de prendre le dessus sur le variant Omicron BA1. C'est un variant qui est à peu près 30 à 40% plus contagieux que l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui sont vaccinés, le variant BA2 n'est pas plus sévère. Le variant BA2 ne donne pas une maladie plus grave que le BA1. Le vaccin fonctionne encore contre le BA2. Donc oui, on voit beaucoup de cas positifs, mais très peu de cas, je vous dirais, extrêmement malades. Ou si il y a des cas malades, au lieu de continuer de voir une diminution des hospitalisations, on voit une stabilisation, mais à un niveau qui est beaucoup plus bas que ce qu'on voyait au niveau du pic, si vous voulez, qu'on a connu au mois de janvier, par exemple. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que oui, les gens continuent de s'infecter, mais les conséquences de l'infection à l'échelle sociétale ne sont certainement pas au même niveau que ce qu'on a vu dans le passé. Et encore une fois, c'est grâce à une très grande partie de la population qui est vaccinée. Il ne faut pas oublier non plus, vous avez vu que durant la période des fêtes, peut-être 2 millions, 2,5 millions de Québécois
ont fait la COVID. Et pour beaucoup de ces gens-là, ils étaient déjà vaccinés. Donc, les gens qui ont eu deux ou trois doses de vaccin plus la COVID, ben, ces gens-là sont relativement très bien protégés contre la maladie sévère. Il y a une étude qui est sortie aux États-Unis la semaine dernière à ce sujet-là. Et donc, le risque d'avoir des maladies sévères chez ces gens-là est très faible. Par conséquent, oui, ça va être une nuisance dans la société, entre guillemets, mais ça ne devrait pas nous empêcher de continuer de fonctionner. Et moi, ce que je trouve quand même très encourageant, c'est qu'on a ouvert la société de façon importante, et en dépit de cette ouverture-là, ben, on voit que les hôpitaux sont loin, loin d'être submergés. Donc, ça montre que on va vivre avec la COVID, mais la COVID ne devrait pas nous empêcher de vivre.
Quand on regarde les mesures à venir, et tout indique que le masque obligatoire, le port obligatoire du masque, probablement avant Pâques, va disparaître et que ça va devenir un choix. Êtes-vous d'accord avec ça? On comprend qu'il y a des endroits, je pense aux hôpitaux, et bon, où le masque sera encore obligatoire, mais de façon générale, de ne plus l'imposer dans les endroits publics, trouvez-vous qu'on est rendu là?
Ben, je pense que oui, si on voit ce qui se passe en Europe, l'Europe est en train, vous savez, comme vous nous avez dit, ils ont toujours quelques semaines d'avance sur notre épidémie. Donc, ils ont enlevé leur masque. Oui, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de cas, mais pas nécessairement un effondrement du système de santé. Donc, on voit que, premièrement, oui, on gardera le masque dans certains endroits ciblés. Donc, je pense aux hôpitaux, je pense aux transports en commun, je pense aux voyages en avion, puis peut-être dans certains endroits. Deuxièmement, je pense qu'il y a des gens qui vont continuer de garder un masque sur une base personnelle pour se protéger parce qu'ils ont des conditions plus à risque et c'est aussi adéquat. Mais pour, je vous dirais, la globalité de la population, ça va devenir quelque chose de plus facultatif. Ce qui va nous aider aussi, c'est qu'on sort de la saison hivernale et le fait que les gens vont être dehors, que la ventilation, entre guillemets, va être plus facile parce que les gens vont être beaucoup plus dehors, les gens vont ouvrir les fenêtres, etc. C'est un virus respiratoire, donc il suit un cycle hivernal. Le tout mis ensemble devrait nous permettre, je vous dirais, d'être beaucoup plus, on va dire, facultatif sur le port du masque. Et je pense qu'on va apprendre à vivre avec le virus. Alors, ce qu'il faut voir dans le bon côté des choses, c'est que si on doit revenir pour une raison X, Y, à un moment donné précis au port du masque, la population est très habituée et très entraînée à ça. Donc, c'est pas quelque chose qui serait difficile à faire. Mais de commencer à enlever le masque, je pense qu'à cette étape-ci, c'est très acceptable.
Merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi. Au revoir.
Dr. Carl Weiss.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, vous savez que comme citoyen, vous avez le droit de déposer ce qu'on appelle une plainte privée. Quand l'État ne veut pas poursuivre le DPCP, vous avez le droit. C'est pas facile, c'est compliqué, ce sont de longues démarches. C'est ce que vit Michel Gauvin qui tente depuis des années d'obtenir justice pour sa fille Caroline, qui a été victime d'un accident de la route qui implique des tracteurs de déneigement. Ça s'est passé en 2013, juste vous rappeler qu'on est en 2022. Et à l'époque, le DPCP avait refusé de déposer des accusations à l'endroit des conducteurs et des policiers qui sont intervenus sur les lieux de l'accident. M. Gauvin s'est tourné vers une plainte privée. Et là, c'est le juge Pierre Bellé de la Cour du Québec qui vient de donner toute une raclée au procureur dans le dossier, qui est pourtant un procureur d'expérience, d'avoir eu ce qu'on appelle un parti pris. C'est quand même pas rien. Michel Gauvin est avec nous. M. Gauvin, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être d'abord nous expliquer un peu ce qui est arrivé à votre fille, l'accident comme tel. Comment ça s'est passé?
Bien, c'est un accident. Caroline était sur le chemin du retour à la maison. Elle avait sorti le soir, puis sur le chemin du retour, elle s'est faite a eu un accident avec impliquant deux tracteurs de déneigement. Puis dans ce fameux rapport-là, il signalait qu'il y avait un seul tracteur, mais il y en avait deux finalement, avec les témoins qui avaient été écartés, mais on a pu faire la lumière là-dessus. Mais c'était assez complexe comme processus d'enquête parce qu'on n'a eu aucune information des policiers. Tout était caché, les adresses, les géodésiques, tout était falsifié. Fait que c'était difficile de remonter la source, mais avec l'aide d'un témoin qui avait été ignoré, qui avait été mis de côté, qui, étrangement, quasiment miraculeusement, ce témoin-là connaissait Caroline de l'école, si on veut, là, des années plus tôt. Ben, on a pu faire le fil des choses puis remonter, autrement dit, à la vérité de qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cet accident-là.
Ça fait 9 ans, l'accident. Quel est l'état de santé de votre fille?
Ben, au début, Caroline était gravement atteinte. D'ailleurs, le docteur Parent, Stéphane Parent de l'hôpital Sacré-Cœur, m'a mentionné, moi, personnellement, même à 2 reprises, solennellement, qu'elle avait aucune chance de survie à ce moment-là. Parce qu'elle était atteinte au niveau de C3, à moelle épinière. Fait que, tant qu'on regarde ça, une contusion C3, c'est tout de même assez grave. Ça touche des parties vitales du corps, les poumons, la cœur, ces choses-là. Fait que, ensuite, ben, c'est passé justement, c'est comme une genre de guérison miraculeuse, si on peut appeler ça. C'est pas un miracle sur le coup, parce que un miracle, c'est direct. Mais une guérison miraculeuse, c'est fait un peu sur le temps. Et puis, Caroline s'est remise à marcher 2 mois après, ce qui était inconcevable, parce que, non seulement elle venait de passer à travers la vie, mais son état s'est amélioré sur le côté physique, alors qu'elle était complètement paralysée, était tétraplégique. Et puis, c'est passé vraiment quelque chose d'inhabituel. D'ailleurs, le docteur Jean-Marc Trump, aussi de Sacré-Cœur, qu'on ne savait pas que Caroline ait pu revoir la marche, puis sa vie, ses membres, ces choses-là, parce qu'elle était tétraplégique. Puis, il pensait que c'était même pas elle quand il l'a examinée. Il ne croyait pas. Quand il a vu les cicatrices à l'avant et à l'arrière de son cou, qu'il a compris que c'était bel et bien elle. Puis, en plus, il avait pris c'est lui-même qui a pris au début lors de l'intervention d'urgence.
OK. Là, je sais que c'est compliqué, mais je vais essayer de résumer ça, là, puis vous allez me donner votre point de vue. Donc, le DPCP a décidé de ne pas accuser, puis finalement, vous êtes tourné vers une plainte privée. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément qui est bien important, là, c'est que dans la décision qui a été rendue et qui vise le procureur au dossier, je cite, « Un des cas les plus manifestes de conduite répréhensible, ce qui est extrêmement rare. C'est un jugement dur. C'est un procureur en chef adjoint au crime économique. Et que dans le fond, lui, il n'accusait pas parce qu'il avait l'impression que vous, tout ce qui vous intéressait, c'était d'avoir une cause au civil pour avoir des dédommagements. »
Ouais. Il y avait une idée aussi là-dessus, parce que j'ai toujours mentionné que l'argent, c'est pas le but, c'est plutôt d'avoir justice, parce que l'enquête a été camouflée. Il y a eu plusieurs. On mentionnait au début qu'il y avait un complot, nous, effectivement, on était capable de le prouver, mais le procureur nous a tout arrêté. Il n'a pas déposé la vraie preuve devant le premier juge, le juge Bédil. Tout à l'heure, vous avez mentionné le juge Bédil, c'est lui qui était. Mais c'est plutôt le juge Royer qui a repris ça, puis que lui a constaté en faisant le ménage en pré-enquête, puis en vérifiant tout que il y avait de graves inconduites dans ça.
Mais puis, attendez, là, il y a quelque chose de plus grave encore. Là. Puis là, vous l'avez vécu, fait que vous êtes capable de me le dire. Qu'un procureur de la Couronne s'acharnait sur vos témoins puis posait des questions bonbons aux policiers puis aux déneigeurs.
Oui, exact. Parce que c'est pas son rôle, ça. Parce que dans la Bible, comme qu'il dit, la Bible, ah, c'est toi qui des procureurs. Vous savez, moi, j'ai étudié ça pas mal parce que j'avais le temps d'étudier ça. Eh bien, son rôle, c'était pas ça. C'était un rôle neutre. C'est un rôle qui est pas partisan ni un bord ni sur l'autre. Alors qu'il était l'avocat de la défense, qui mentionne le juge Royer dans ça. Il est devenu l'avocat de la défense. C'est ça qui était indécent. C'est ce que le juge Royer mentionne. C'était inconcevable d'avoir une conduite comme ça. C'est pour ça qu'il est si dur dans son jugement. Puis ça va de quoi? On se sentait visé. C'était comme nous autres, les coupables. Alors que c'est de l'autre côté qui aurait dû enquêter plus. Le procureur a pris parti complètement. C'était hallucinant. Puis c'était fait en privé. Fait qu'il n'y avait aucun journaliste. Personne ne pouvait faire ça. Puis c'était tout contrôlé. En plus, il y a eu une dérogation majeure qui n'avait pas été mentionnée. C'est que ça aurait dû être à huis clos complètement avec nos témoins. Alors que toute l'autre partie était là. La plupart des avocats de l'autre partie, tout ça, ils faisaient plein d'informations qui ont été dévoilées aux autres parties quand ils ont rêvé de témoigner. De toute façon, c'était complaisant. Il s'est passé une vraie farce, une paradis de justice complètement. Faut vraiment le voir, le vivre pour le croire parce que c'est incroyable.
Bonne chance à vous, puis on espère que vous allez avoir gain de cause. Merci, M. Gauvin. Michel Gauvin, donc, qui, je le rappelle, depuis des années, cherche justice pour sa fille. Puis écoutez, là, un jugement comme ça, là, où on ramasse le procureur en disant qu'il a été partie de l'opération de défense, dans le fond, puis qu'il a été complaisant avec les gens qui, normalement, auraient dû faire face à des accusations. Puis là, c'est un citoyen qui, lui, a démarré ça avec une plainte privée. Puis les propos du juge, là, sont dévastateurs. Là. Sérieusement, là, pas vu ça souvent.
C'est 23.